Et nous allons lire ensemble une partie du texte qui fera l'objet de la prédication. Alors je l'espère pour beaucoup d'entre vous, vous avez pu lire avant ce culte les deux chapitres dans Juges qui seront donc l'objet de la prédication dans Juges 4 et 5. Mais ce matin nous lirons donc le chapitre 4 ensemble. Les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Éhoud était mort, et l'Éternel les vendit entre les mains de Yabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisera. Il habitait à Haroshet-Goïm. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Yabin avait 900 chars de fer et les opprimait avec violence, les Israélites depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans les monts d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour le jugement. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam de Kedesh Nephtali, et elle lui dit : Voilà l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va faire du recrutement sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des fils de Nephtali et des fils de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kishon, Sisera, chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. Barak lui dit : Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit : J'irai donc avec toi. Mais tu n'auras pas de gloire dans la voie où tu t'engages, car l'Éternel vendra Sisera aux mains d'une femme. Puis Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kedesh. Une dizaine de milliers d'hommes montèrent sur ses pas, et Déborah monta aussi avec lui. Héber le Kénien s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Tsanaïm, près de Kedesh. On informera Sisera que Barak, fils d'Abinomam, était monté sur le mont Tabor. Et depuis Haroshet-Goïm, Sisera rassembla vers le torrent de Kishon tous ses chars, 900 chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Alors, Déborah dit à Barak : Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livrera Sisera entre tes mains. L'Éternel se met en campagne devant toi. Et Barak descendit du mont Tabor avec 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit Sisera, tous ses chars et tout son camp en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroshet-Goïm et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée sans qu'il en reste un seul. Sisera s'enfuit à pied dans les tentes de Yaël, femme de Héber le Kénien. Car la paix régnait entre Yabin, roi de Hatsor, et la famille de Héber le Kénien. Yaël sortit au-devant de Sisera et lui dit : Retire-toi, mon seigneur, retire-toi chez moi, sois sans crainte. Il se retira chez elle dans la tente et le cacha sous une couverture. Il lui dit : Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, j'ai soif. Elle ouvrit l'outre à lait, lui donna à boire et le recouvrit. Il lui dit encore : Tiens-toi à l'entrée de la tente. Si quelqu'un vient te questionner en disant « Y a-t-il quelqu'un ici ?» tu répondras « Non. » Yaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui planta dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi, accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Yaël sortit à sa rencontre et lui dit « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle et vit Sisera. Il vit que Sisera était tombé mort, le pieu dans la tente. En ce jour-là, Dieu humilia Yabin, roi de Canaan, devant les Israélites. La main des Israélites s'appesantit de plus en plus sur Yabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'il ait exterminé Yabin, roi de Canaan. Si ce n'est pas Dieu qui avait envoyé Barak au combat, il n'y aurait eu que perte et défaite. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous ouvre les yeux pour la compréhension de sa parole, il n'y aura qu'incompréhension et découragement. C'est pourquoi nous comptons, comme à chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu agisse dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une portion de l'Écriture qui nous parle du héros de la Bible, du personnage principal qui est bien évidemment Dieu. Dans ses œuvres, il inclut des personnes qui ont vécu dans l'histoire et qui nous aident à comprendre les événements. Une chèvre sauvage et une abeille nous indiquent que nous sommes dans le pays découlant de miel et de lait, ou de lait et de miel. La foudre nous indique d'où vient le secours, de l'orage qui amène la victoire. En fait, Déborah signifie abeille, Yaël, chèvre sauvage, et Barak, foudre ou éclair. Nous sommes au temps des juges. Donc, peu de temps après l'entrée du peuple dans le pays de Canaan, dans lequel il devait en fait détruire les idoles. Un temps où est vécu le cycle de la rébellion, ruine, repentance, rédemption, repos, rébellion. Voilà, on a déjà vu ce cycle ensemble, hein. On pourrait l'appeler autrement, hein. Révolte, correction, appel au secours, tranquillité, révolte à nouveau, et on s'enfonce toujours plus bas. Contexte du livre des Juges, et nous retrouvons en fait tout ce cycle dans Juges 4 et 5 qui nous intéresse aujourd'hui. Mais nous n'allons pas nous attarder sur cette structure cette fois. J'aimerais en fait attirer votre attention sur une particularité de ce cycle que nous ne retrouvons dans aucun autre cycle. En fait, c'est le seul cycle qui est raconté deux fois. C'est le seul cycle qui est raconté deux fois. Le chapitre 4 représente en fait les faits historiques dans un ordre chronologique, alors que le chapitre 5 est une interprétation, un témoignage de ce qui s'est passé. Donc un double témoignage que nous avons ici dans ce cycle avec Déborah, Barak, Yaël et le peuple, et évidemment le héros, Dieu. Nous avons donc ici un exemple intéressant de comment témoigner des œuvres de Dieu, puisque nous avons des faits historiques et un témoignage. Donc nous allons ce matin réfléchir à comment témoigner des œuvres de Dieu. Voilà pourquoi cette prédication a pour titre « Déborah et Barak témoignent de l'œuvre de Dieu ». Et nous pouvons partager le cantique du chapitre 5 en quatre parties que j'intitulerai première partie des versets 2 à 13, un témoignage qui dirige vers Dieu. Deuxièmement, 14 à 23, un témoignage qui décrit les motivations. Ensuite, de versets 24 à 27, un témoignage qui bénit le fidèle. Et la dernière partie, 28 à 31, un témoignage qui décrit les conséquences. Et comme nous avons lu le chapitre 4 tout à l'heure, nous avons l'historique en mémoire et nous allons nous concentrer sur le témoignage du chapitre 5 ce matin. Mais avant de nous plonger dans le cantique de Déborah et de Barak, nous allons prendre quelques instants suffisamment pour dissiper quelques malentendus. Par un point que j'intitule, et ce sera le premier point, « Une vie qui respecte les rôles donnés par Dieu ». Une vie qui respecte les rôles donnés par Dieu. Déborah est en fait la seule femme juge, la seule femme qui a une position d'autorité sur le peuple approuvée par Dieu dans la Bible. Et Déborah, en fait, est souvent mentionnée lorsque le mouvement féministe qui s'est introduit dans le christianisme revendique en fait le rôle d'autorité, de dirigeant pour les femmes de façon égale avec celui des hommes. Et là, le nom de Déborah arrivera. Donc sans toutefois avoir la possibilité ce matin de couvrir tout ce sujet qui est devenu vaste, j'aimerais vous donner quelques remarques en fait sur la vie de Déborah telle qu'elle nous est présentée dans la parole de Dieu. Ce sera comme des pierres, des briques que l'on pourrait ensuite utiliser pour construire tout cet enseignement. Alors, premièrement, alors je vous invite toujours à garder vos Bibles ouvertes, parce qu'on peut s'y référer plus facilement pour ceux qui en ont une. Donc, au chapitre 4, au verset 4, Déborah est présentée tout d'abord comme une prophétesse. Ce qui signifie qu'elle transmet des paroles qui ne sont pas de sa propre autorité, mais des paroles de Dieu, comme Hulda, Myriam et les filles de Philippe, pour citer tous les exemples bibliques. La parole qui vient de Dieu fait autorité. Évidemment, cette parole, elle vient de Dieu, donc elle fait autorité. Mais l'intermédiaire qui transmet la parole n'est pas autorité en lui-même. C'est la parole qui l'est et la source qui est Dieu. De plus, actuellement, étant donné que la parole de Dieu est complète, il n'y a plus d'office prophétique de ce type pour des révélations nouvelles. Donc, ni homme ni femme ne peut donc aujourd'hui revendiquer ce titre de prophète pour prononcer des paroles d'autorité. Voilà un premier élément. Deuxième élément, Déborah est présentée comme étant la femme de Lapidote, verset 4. En fait, le rôle d'épouse sous l'autorité d'un mari fait donc partie de la situation devant Dieu et devant le peuple de Déborah. Un autre élément, Déborah, dans son rôle de juge, ne va pas aller exercer parmi le peuple. Elle ne va pas aller s'imposer dans le peuple, c'est le peuple qui vient vers elle. Ceci nous permet de penser qu'elle ne revendique pas un rôle d'autorité en allant elle-même l'exercer de manière publique, comme nous ne le voyons d'ailleurs à aucun endroit dans la parole de Dieu. Une autre remarque, Déborah, au contraire des autres juges, n'assume pas la fonction de chef militaire, mais laisse cela à Barak et n'est pas non plus une héroïne guerrière. Une autre remarque, Déborah ne chante pas seule un cantique devant tout le peuple, mais le fait avec Barak. C'est vrai que Myriam avait chanté avec les femmes du peuple, vous vous souvenez peut-être, à la sortie d'Égypte, hein, c'était passé la mer, et puis les Égyptiens avaient été évacués, si vous voulez. Et là, Moïse avait chanté un cantique, et en réponse à ce cantique, Myriam avait chanté avec les femmes du peuple. Donc ça nous fait vraiment penser aussi à cette situation. Il y a beaucoup de similitudes d'ailleurs entre les deux situations. Et le fait que Déborah chante avec Barak nous permet de comprendre que Déborah ne cherche pas à se mettre en avant ou à prendre une place d'autorité. Déborah, encore, souhaite la victoire et la gloire à Barak. Celui-ci, agissant dans un premier temps, en ne comptant pas uniquement sur l'Éternel, en fait, Barak, il voulait quasiment que Déborah soit comme son talisman, quelque part. Si tu viens avec, j'y vais. Hein? Eh bien, ainsi, là, il perdra cette gloire, mais qui ne se rejaillira pas sur Déborah, mais sur une autre femme, Yaël, qui, elle non plus, ne cherche pas un rôle d'autorité. Alors la question qu'on peut se poser, que beaucoup se posent, Déborah est-elle l'exemple de femme qui revendique le même rôle que les hommes, ou est-elle celle que Dieu a fait se lever, car aucun homme ne prenait ses responsabilités? C'est un peu la question. Donc Déborah est-elle l'exemple de la femme qui revendique le même rôle que les hommes, ou est-elle celle que Dieu a fait se lever, car aucun homme ne prenait ses responsabilités? Et là, les versets 2 et 7 du chapitre 5, entre autres, nous donnent quelques indications utiles pour répondre à cette question. Commençons par le verset 7, qui décrit en fait la situation avant l'intervention de Déborah. Parce que dans le chapitre 5, ce n'est pas chronologique. Hein. Donc au verset 7, on a la situation avant l'intervention de Déborah, et au verset 2, après. On y viendra. Donc, verset 7. Dans la traduction Colombe que nous avons coutume d'utiliser, il est écrit au verset 7, « On avait abandonné les villes ouvertes en Israël, on les avait abandonnées jusqu'à ce que je me sois levé, moi, Déborah, que je me sois levé comme une mère en Israël. » Alors, il est intéressant, si vous ne savez pas l'hébreu, il y a beaucoup de traductions françaises. Donc, il est bon parfois d'aller voir d'autres traductions pour mieux saisir le sens du texte. Et je vous en lis une autre, la traduction Second 21, qui est bien connue actuellement, qui dit au verset 7, « Les chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je me suis levée, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. L'abandon de la ville qu'on a vu dans la traduction de la colombe signifie donc l'abandon des responsabilités de gouvernement, sûrement par peur de l'oppresseur. La Bible a noté, traduit même, le gouvernement manquait en Israël. Alors nous comprenons que la traduction n'est pas évidente ici, mais cela n'empêche pas de comprendre qu'il y a un réel problème de manquement, d'abandon. Et Déborah ne se lève donc pas pour faire concurrence aux hommes fidèles qui gouvernent le peuple avec courage, fidélité et engagement, mais se lève en fait dans un temps d'abandon. Ainsi, elle ressemble à ces mères dont les maris ne prennent pas soin des familles, qui ne prennent pas leurs responsabilités spirituelles et qui les abandonnent pour toutes sortes de raisons dont aucune n'est valable. Déborah intervient comme une mère pour Israël, étant donné que le père, donc les hommes, sont absents. On va au verset 2, qui nous donnera encore une autre indication qui va corroborer cela. Verset 2, pourquoi nous devons bénir l'Éternel? Parce que le chant commence tout de suite par la conclusion. Verset 2, quand on laisse flotter sa chevelure en Israël, quand un peuple se porte volontaire lui-même, bénissez-en l'Éternel. Voilà pourquoi il faut bénir l'Éternel. Bon, la chevelure qui flotte au vent, ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, pour ceux qui ont un petit peu des liens dans la parole de Dieu, on sait que les longs cheveux sont en lien avec des naziréens, des gens qui ont fait vœu de consécration à l'Éternel. Et un commentateur dit d'ailleurs que cela exprime la force et la capacité même de conduire les autres. À nouveau, on va voir une autre traduction de ce même verset pour essayer de saisir le sens. Je reprends de nouveau la seconde 21, verset 2 qui nous dit: des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. À nouveau, la traduction ne semble pas aisée, mais nous comprenons facilement qu'il est question d'engagement, de prise de responsabilité. Et Déborah, avec Barak à ce moment-là, invite le peuple à bénir l'Éternel d'avoir retrouvé l'engagement et d'assumer ses responsabilités à tous les niveaux du peuple. Il est intéressant de noter d'ailleurs qu'à la fin du cycle, lorsqu'il est dit que le pays fut tranquille, donc au verset 31 du chapitre 5, il n'est pas question de Déborah, il n'est pas dit tant que Déborah vécut. Et je crois que c'est simplement parce que les hommes ont repris leurs responsabilités, même si Déborah, et ça je le pense, a été et est restée influente dans le pays. Déborah est donc un exemple d'humilité, d'engagement, d'obéissance à Dieu. Elle nous pousse à adorer Dieu, comme nous le verrons, et à chercher notre secours auprès de lui. Déborah est vraiment un exemple d'humilité, d'encouragement, d'obéissance à Dieu. Elle nous pousse à adorer Dieu, à chercher notre secours auprès de lui. Elle nous invite à ne pas revendiquer une place, on le voit nulle part, mais à encourager ceux que Dieu a désignés de l'assumer. Et on le voit donc particulièrement avec Barak. Et le chant qu'elle chante avec Barak met tout de suite les choses en place en mettant dès le début Dieu en premier. On va se plonger dans ce chapitre 5 comme promis. Maintenant, je vous redis peut-être les quatre parties que nous allons revoir, qu'on soit un petit peu... qu'on l'ait en tête. Donc, on verra un témoignage qui dirige vers Dieu, un témoignage qui décrit les motivations, un témoignage qui bénit le fidèle et un témoignage qui décrit les conséquences. Et donc, tout cela sera pour nous aussi un exemple de comment est-ce qu'on peut témoigner de l'œuvre de Dieu. Donc, un témoignage qui dirige vers Dieu. Donc, chapitre 5, nous allons maintenant souvent arriver dans notre Bible, dans chapitre 5. Donc, Déborah et Barak veulent que le peuple se tourne vers l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Je chanterai l'Éternel en l'honneur de l'Éternel. C'est, au début du chant, c'est répété. Le cadre est posé, le héros est clairement annoncé, c'est l'Éternel. Et là, Barak et Déborah sont en train de parler de ce qui s'est passé au chapitre 4. Mais ils l'interprètent. C'est la manière dont nous sommes aussi appelés à témoigner des œuvres de Dieu. Le cadre est posé, le héros est clairement annoncé, c'est l'Éternel. Alors pourquoi le peuple était-il dans cette situation catastrophique? Eh bien, le verset 8 le dit clairement. Donc là, vous verrez, on va un petit peu aller dans ce texte pour, et j'aimerais un petit peu vous donner quelques indications pour comprendre ce qui est écrit. Hein. On avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. La raison est clairement donnée. Se détourner de l'Éternel, adorer des idoles, voilà la racine de tous les problèmes du peuple. C'est sa rébellion, sa révolte qui l'amène en fait à la léthargie, à la faiblesse des dirigeants, à la confusion spirituelle et au manque d'armes face à l'ennemi. Tout ceci est décrit poétiquement dans les versets 6 à 8. Il décrit tout ça en fait, la situation du peuple à ce moment-là. Et le verset 9 indique un contraste, l'œuvre de l'Éternel, puisqu'il est dit de bénir l'Éternel. Regardez le verset 9 où il est écrit « Mon cœur va au chef d'Israël, à ceux du peuple qui se sont portés volontaires. » Là, on aurait de nouveau la notion de l'engagement. Hein? Et il est dit « Bénissez l'Éternel ». Voilà pourquoi il faut bénir l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Le retour à l'Éternel amène l'engagement, la prise des responsabilités. Il y a de nouveaux chefs, l'ordre, la protection permettent à nouveau les échanges commerciaux, les déplacements sans danger, la pâture des troupeaux sans peur d'être pillés, la direction du pays qui se vit aux portes. En fait, tout ça est décrit dans les versets 10 et 11 de manière poétique. Hein, vous qui montez les blanches ânes, vous qui avez pour siège des tapis, vous qui marchez sur la route, réfléchissez. Il était dit juste avant qu'on n'allait plus sur les routes. On avait peur. Il y avait l'ennemi. Et là, Dieu a délivré. Donc on marche de nouveau sur ces routes. Vous voyez hein, tous ces éléments qui sont dans ce texte. Quel contraste avec la description avant l'intervention de l'Éternel. Et les versets 3 et 4, en fait, parlent de l'intervention de l'Éternel. C'est du ciel qu'est venu le secours. En fait, Sisra avait 900 chars de fer, une armée performante, avec la dernière technologie. En fait, ils étaient imbattables. Qu'est-ce qu'un homme à pied peut faire face à un char de fer? Mais l'Éternel fait trembler la terre, les cieux se fendent, l'orage s'abat, les chars s'enlisent, et le verset 21 indique que les torrents les balayent. C'est la fuite éperdue. Toute cette technologie ne peut rien face à l'Éternel qui peut utiliser toute sa création. Et c'est aujourd'hui encore exactement la même chose. Toute cette technologie ne peut rien face à l'Éternel qui peut utiliser toute sa création. Aujourd'hui, il crée un champ magnétique et il n'y a à peu près plus rien qui fonctionne dans l'armée. Si le chapitre 4 parle de ce que le spectateur pouvait voir, le chapitre 5 parle de celui qui contrôle toute l'histoire. C'est comme ça qu'on est appelé à témoigner, en fait. Le chapitre 4 parle principalement du point de vue de ce que l'homme peut voir. Le chapitre 5 parle de ce qui se passe réellement, de l'intervention du Dieu qui fait trembler le Sinaï lorsque nous donnons notre témoignage. Et là, on peut se poser la question maintenant. Parfois, vous dites ce qui s'est passé, vous parlez de l'histoire, des choses que vous avez vécues. Eh bien, lorsque nous donnons notre témoignage, est-ce que nous lisons les événements avec le regard de Dieu? Ou est-ce que nous nous confinons à la notion journalistique du chapitre 4? Vous savez, Christ avait l'habitude de parler des œuvres de son Père quand il parlait de ce qui se passait. Il parlait des œuvres de son Père et pour lui, tout était guidé, dirigé par Dieu. Déborah et Barak, dans ce chant, nous montrent dès le départ que leur témoignage dirige vers Dieu. Et il continue maintenant en décrivant les motivations. Après un zoom sur Dieu, si vous voulez, ils vont faire un focus sur le peuple de Dieu et sur ses motivations. C'est le deuxième point. Un témoignage qui décrit les motivations des versets 14 à 23. Dans ces versets, Déborah et Barak témoignent des motivations des tribus engagées. 10 tribus étaient concernées. Juda et Siméon ne sont pas nommés, ils sont au sud. S'ils avaient fauté, eh bien ce serait indiqué. Ils ne sont pas nommés. Et sur les 10 tribus concernées, 6 se sont résolument engagées et 4 sont lamentablement restées en retrait. Ruben, par exemple, donc la tribu, a bien reçu le message. Ils ont pris de bonnes résolutions. Ils ont eu de grandes délibérations. Mais ils sont restés vers leur troupeau et ne sont pas venus. Ça fait penser à la parabole des deux fils dans Matthieu 21 où Jésus dit « Qu'en pensez-vous ? Un homme avait deux fils. » Il s'adressa au premier et dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il y alla. Il s'adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit « Je veux bien, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils répondirent, le premier. Eh bien, Ruben est comme le second fils. Beaucoup de paroles, mais pas d'action. Galad, Ségad, Dan et Azer sont restés vers leur point d'eau. Aucune motivation à venir, car ils n'étaient pas centrés sur l'Éternel, leur motivation n'était pas fondée sur l'Éternel, mais sur leurs petites ressources à eux. Voilà pourquoi ils ne sont pas venus. Alors qu'Éphraïm, Benjamin, Makir, qui est Manassé, Issachar et Nephtali viennent au combat. Ils sont prêts à affronter la mort. Et que découvrent-ils ? Que découvrent-ils ? Ça, on le voit dans ce beau poème. Ils découvrent que les cieux, les étoiles même, combattent le même ennemi. L'orage éclate. Le torrent balaie les chars invincibles. L'Éternel honore ceux qui sont motivés par l'obéissance et la confiance en lui. Déborah, la porte-parole de Dieu, a dit que Sisera et ses chars seront livrés entre les mains de Barak. C'est une parole de l'Éternel qui a été transmise. Sisera sera livré entre les mains de Barak. Et en fait, c'est cette promesse qui motive les tribus fidèles. Quelle est notre motivation ? C'est la parole de Dieu. C'est ses promesses. Et ses promesses qu'il ne doit pas nous prouver à chaque instant. Il l'a dit une fois. Barak, il s'est dit, ok, Dieu a dit ça, mais si tu ne viens pas avec moi, j'y vais pas. Ben, qu'est-ce qui arrive là ? Ben, pas de gloire pour lui. Que Dieu nous garde de jouer à ce jeu-là. Si Dieu dit quelque chose, c'est qu'il le fait. Jésus-Christ nous indique qu'il a vaincu la mort, et qu'il est vainqueur, et qu'il va manifester sa gloire lors de son retour. Ça joue, vous êtes au courant ? Je le redis, hein, parce que c'est important. Jésus nous indique qu'il a vaincu la mort, qu'il est vainqueur, et qu'il va manifester sa victoire lors de son retour. En fait, c'est cette promesse qui motive les chrétiens fidèles. C'est cette promesse qui nous motive. Nous savons que nous sommes dans cette victoire. Puis on n'a pas besoin de lui demander, prouve-le-moi, prouve-le-moi. Il l'a dit. Après avoir dirigé vers Dieu, fait un focus sur le peuple, Déborah et Barak s'adressent à une personne, celle que Dieu a utilisée pour délivrer le peuple de l'ennemi. C'est ce que j'ai intitulé « un témoignage qui bénit le fidèle ». Les versets 24 à 27. Dans leur chant, Déborah et Barak louent l'action de Yaël. Il n'y a aucune ambiguïté au chapitre 5, au verset 24. Regardez avec moi. Il est écrit « Béni soit entre les femmes Yaël, femme de Héber le Kénien. Bénie soit-elle entre les femmes qui habitent sous la tente. » On ne se rend peut-être pas vraiment compte de ce que signifie cette phrase. Mais c'est quelque chose de juste incroyable. Vous savez que dans la Bible, il n'y a qu'une seule autre personne qui a été bénie comme Yaël. Cette seule autre personne, il s'agit de Marie, la mère de Jésus. Et d'ailleurs, c'est une autre femme qui a aussi dit cela. Dans Luc 1,41, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Béni soit entre les femmes Yaël. Comment comprendre cette bénédiction face à l'action meurtrière de Yaël? Eh bien, le seul critère, la seule manière de comprendre, c'est que malgré la séparation de son mari d'avec les Kéniens, qui s'étaient joints au peuple d'Israël, et la paix même qu'il avait fait avec l'ennemi, avec Yabin, Yaël est resté fidèle à l'Éternel et loyal envers son peuple. Si le roi Saül, c'est bon Saül là, premier roi avant David, hein, si le roi Saül, ou plus tard Akab, ont été condamnés pour avoir épargné le chef ennemi du peuple de Dieu, eh bien Yaël est ici loué pour l'avoir éliminé. Vous comprenez, Saül et Akab n'ont pas voulu tuer le chef ennemi. Et en fait, ils ont été condamnés parce qu'ils ne l'ont pas fait. Ça a même coûté le royaume à Saül. Yaël, ici, est loué d'avoir éliminé l'ennemi. Il ne s'agit pas d'une vengeance personnelle, mais d'un acte de jugement sur un homme condamné par Dieu. C'est comme s'il y avait un déchet nocif et puant qui provoque des maladies graves. Il est difficile d'attraper parce qu'il se déplace comme les microbes dans le corps. Mais un jour, Yaël le voit arriver, arrive à l'enfermer. Va-t-elle laisser ce déchet nocif et puant continuer son travail cruel? Non. Elle l'élimine et lui enlève toute vitalité et le rend inoffensif. C'est pour cette raison qu'elle est louée. Il est évident que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et je le répète régulièrement lorsque nous parlons de ce livre des juges. Éphésiens 6, 12 et 13 est une clé pour comprendre ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Et cela nous accompagne. Sans parler des magistrats mis en place par Dieu qui doivent appliquer la justice physiquement. Ça, c'est vrai. Mais en parlant de chaque chrétien, donc il est écrit dans Éphésiens 6, 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Donc on ne vous demandera pas un jour de prendre un pieu de tente et d'aller tuer quelqu'un. Non. Non. Par contre, de tuer votre péché, oui. C'est ce que nous sommes appelés à vivre et à faire. Après avoir focalisé sur Dieu, pris sur le peuple et sur la personne choisie par Dieu pour délivrer son peuple, sur laquelle ils appellent la bénédiction de Dieu, Déborah et Barak témoignent des conséquences. C'est la dernière partie. Un témoignage qui décrit les conséquences. Versets 28 à 31. Déborah et Barak, en parlant de la mère de Sisera, indiquent un contraste avec la mère en Israël. Puisqu'en fait, dans ce cantique, Déborah est appelée la mère en Israël, et nous avons ici la mère de Sisera. La mère de l'ennemi ne cherche pas le bien d'un peuple, mais uniquement de son fils, qu'elle approuve dans ses actes odieux de viol et de vol. Si vous lisez la fin du cantique, c'est très clair. La mère de Sisera ne le voit pas rentrer, et tous les autres disent « mais il n'y a pas de problème, il est en train de s'occuper des femmes et de prendre des habits, etc. » Mais cet homme qui utilisait les femmes comme des objets est tué par une femme. Cet homme qui prenait des vêtements de couleur est maintenant vêtu d'une couverture colorée par son propre sang. Les ennemis de l'Éternel vont périr. et ceux qui l'aiment vont s'épanouir. Et c'est encore le cas dans le Nouveau Testament, car Dieu n'a pas changé. Les ennemis de l'Éternel vont périr et ceux qui l'aiment vont s'épanouir. Jésus-Christ est venu. Il a accompli une œuvre de grâce extraordinaire qui permet à tous ceux qui se repentent et qui croient de détourner la colère de Dieu qui pesait sur nous, la détourner sur Christ, sur notre Sauveur. Mais pour ceux qui ne se repentent pas et qui ne croient pas en Jésus-Christ, Jésus-Christ viendra lui-même comme un juge et fera périr les ennemis de l'Éternel. Il est écrit dans 2 Thessaloniciens 1, 5 à 9, donc dans le Nouveau Testament. Il y a là une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est juste, selon Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Tel est le sort des méchants, encore dans le Nouveau Testament. Déborah et Barak disaient bien « Périssent ainsi tous tes ennemis ». Mais ils terminent leur cantique par l'espérance, la joie de ceux qui aiment l'Éternel. La dernière phrase de ce cantique, c'est ceci. Ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Dieu, sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Lumineux, rayonnant, réchauffant, éclairant, bienfaisant. Le salut de l'Éternel, c'est comme l'arrivée du soleil après de profondes ténèbres glacées. C'est ça, le salut de l'Éternel. C'est comme l'arrivée du soleil après de profondes ténèbres glacées. Et on pourrait dire notre soleil, l'astre du matin, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Par leur témoignage, Déborah et Barak nous donnent un exemple de la façon de lire l'histoire. Et c'est exactement de la même façon que Jésus-Christ lit l'histoire. La manière de témoigner de Déborah et Barak nous guide vers celui qui allait venir et avoir un témoignage similaire et plus puissant encore. Et en conclusion, j'aimerais faire ce lien avec Christ. Déborah et Barak ont un témoignage qui dirige vers Dieu. Le témoignage de Jésus-Christ dirige toujours vers Dieu. Même devant Pilate, il lui dit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Admirons et imitons Christ en mettant Dieu en premier dans notre témoignage. Déborah et Barak ont un témoignage qui décrit les motivations. Le témoignage de Jésus met les motivations à découvert. Par exemple, dans Matthieu 12, 34, il est dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Il met en fait en lumière les motivations derrière les actions, comme Déborah et Barak l'ont fait. Parlons donc des motivations dans notre témoignage et montrons la transformation opérée par Dieu. Parce qu'en fait, pour moi, c'est ma prière dans ma vie et dans la vôtre. C'est pas premièrement qu'il change vos actions. C'est premièrement qu'il change nos motivations. Et nos actions seront changées. Déborah et Barak ont un témoignage qui bénit le fidèle. En parlant de Yaël ici dans ce texte. Jésus l'a fait aussi à plusieurs reprises. Par exemple, il a loué l'officier romain qui dit à Jésus « T'as même pas besoin de venir chez moi, tu dis un ordre et ça sera fait. » Jésus loue la foi de cet officier. Ou Jésus le fait encore différemment en invitant aussi parfois à vivre certaines choses, comme par exemple cette hyperbole à se protéger de tout péché, en disant par exemple dans Matthieu 5, 29, « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. »
En fait, c'est une action radicale.
Comme Yaël a une action totalement radicale.
Dans notre témoignage, louons et appelons la bénédiction sur ceux qui sont fidèles, radicales pour Dieu, comme Yaël, qui n'a pas hésité à mettre à mort l'ennemi de l'Éternel.
Ce qui représente pour nous la mise à mort des faux enseignements, des péchés et des idoles.
Déborah et Barak ont un témoignage qui décrit les conséquences. Jésus a sans cesse indiqué le résultat de l'engagement ou du désistement devant Dieu. Pensons par exemple à la parabole des deux maisons dans Matthieu 7. L'un bâti sur le roc qui a pour conséquence, voilà, il parle de la conséquence, bâti sur le roc, quelle est la conséquence? L'orage arrive et la maison résiste. Deuxième situation, il parle de celui qui bâtit sur le sable, de nouveau pour parler des conséquences. L'orage arrive et la maison s'écroule. Bâtir sur le roc, dit Jésus, c'est entendre la parole et la mettre en pratique. Donc celui qui n'entend pas la parole, bon, il ne peut pas la mettre en pratique, c'est comme sur du sable. Celui qui entend la parole et qui ne la met pas en pratique, c'est comme sur du sable. Donc celui qui entend la parole et qui la met en pratique, c'est comme s'il construit sur le roc. Quelle est la conséquence? Quand l'orage arrive et dans votre vie il y aura des orages, la maison va tenir. Dans notre témoignage, on n'a pas forcément besoin de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais simplement de décrire les conséquences des choix. Nous ne pouvons d'ailleurs pas décider pour les autres, mais nous pouvons leur montrer les conséquences des choix. Et c'est exactement ce que Jésus fait avec nous. Et les conséquences du temps de Déborah et de Barak, de s'éloigner de l'Éternel, qui en fait le refus de l'Évangile, si on prend la situation actuelle, eh bien c'est 20 ans de tyrannie cruelle qui représente l'éternité dans la souffrance. La conséquence du retour à l'Éternel, qui représente l'acceptation de l'Évangile, c'est 40 ans de tranquillité qui représente l'éternité dans un royaume de paix. Quelles conséquences voulez-vous vivre? Quelles conséquences voulez-vous vivre? Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous sommes conscients que ta parole, si elle n'est pas accompagnée par l'action puissante de ton esprit, n'agit pas en nous. Nous ne comprenons même pas ce qu'elle dit. Et nous n'arrivons même pas à comprendre les conséquences que cela a de vivre pour toi ou pas. Mais lorsque ton esprit agit dans nos cœurs, tu nous permets de le saisir. Tu nous permets de saisir cette grâce d'avoir un exemple magnifique de Déborah et Barak qui témoignent de tes œuvres. Cela nous donne aussi, avec humilité et avec respect et avec tremblement aussi, la conscience que le méchant périra et que nous ne sommes pas mieux, que nous sommes par nous-mêmes des méchants. Mais Seigneur, nous te remercions pour le merveilleux évangile en Jésus-Christ qui nous est donné. Lui qui est venu, qui a payé pour notre méchanceté, afin que nous puissions être libérés, afin que nous puissions venir à toi et témoigner de tes hauts faits, de ce que tu fais, et de nous réjouir aussi de ceux qui sont fidèles. Seigneur, nous te prions que ces paroles du livre des juges, qui n'est pas toujours facile à saisir, puisse nous stimuler à bien saisir les rôles, c'est vrai, que tu donnes à l'homme et la femme, mais aussi et surtout à saisir que l'histoire n'est pas le fruit du hasard. L'histoire est guidée par toi. Tu es au-dessus de tout, tu contrôles tout. Et si nous vivons des délivrances, c'est toi qui les opères. Parce que tu es ce Dieu qui nous veut du bien. Seigneur, tu permets parfois des épreuves, et nous le voyons dans ce livre des juges, avec ces temps de correction, qui ne sont pas de quelques minutes d'ailleurs, nous voyons des années, 20 ans ici. parce que tu désires que ton peuple revienne à toi. Ô Seigneur, aide-nous à t'écouter avant 20 ans. Que nous le fassions rapidement lorsque tu nous corriges, afin de recevoir ce secours et d'entrer dans ta tranquillité. Seigneur, aide-nous à répondre à cette question de quelles conséquences nous voulons vivre. Non pas simplement « j'aimerais vivre cela », mais de comprendre de ce que cela implique dans notre engagement et dans notre cheminement et dans les choix que tu nous permets de faire par ta grâce. Seigneur, je te prie vraiment que personne ici ne se trouve dans la situation de ce terrible jugement, de cette terrible phrase « périssent ainsi tous tes ennemis éternels ». Mais plutôt que nous puissions tous saisir cette phrase « ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force ». Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.